Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Moi, Mohamed Bouafsi, qui est aux États-Unis, qui suit le déplacement, le voyage d'État d'Emmanuel Macron et qui sera de retour lundi. Mais bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir. Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
Les paris sportifs en ligne qui sont en bon chemin pour atteindre des records boostés par cette Coupe du Monde de foot. Or, les spécialistes s'inquiètent parce qu'il y a des risques d'addiction.
Un témoignage à suivre, celui de Mehdi Touati, 36 ans, accro aux paris en ligne qui lui ont... quasiment pourri la vie. Il nous raconte tout ça dans un instant sur notre plateau. Patrick, votre édito ce soir.
Je vais vous parler, je vais vous décortiquer les revenus des médecins français, puisque c'est l'un des sujets du jour. Un certain nombre de cabinets étaient en grève aujourd'hui pour réclamer une hausse massive de la consultation de base.
La première grève en 7 ans et des médecins généralistes qui ont manifesté sous les fenêtres de notre invité François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation alors qu'une triple épidémie menace la France, la grippe, la bronchiolite et le Covid, qui repart à la hausse avec la question du port du masque qui revient dans le débat public. Jean-Baptiste, dans le 5 sur 5 ce soir.
Alors, il y a but ou il n'y a pas but? C'est vrai, un broglio hein, depuis le match de l'équipe de France hier face à la Tunisie. Après le but de Griezmann qui a été annulé avant ou après le coup de sifflet final, c'est toute la question. La Fédération française a déposé un recours devant la FIFA. On va en parler avec le journaliste sportif de la chaîne L'Équipe, Johan Rioux.
Qui va s'enflammer, qui va enflammer
probablement.
Le plateau de C'est à vous. Pierre, votre œil ce soir.
Pour les amateurs ou pour le découvrir, des enregistrements inédits du trompettiste Miles Davis illustrent le son unique de ce musicien qui a changé la musique moderne. On en parle tout à l'heure, on l'écoute un peu.
Nos invités ce soir, ce sont deux habitués du Téléthon. Ils soutiennent la cause depuis longtemps. Yannick Noah était le parrain du Téléthon, c'était en 2005. Aujourd'hui, c'est Kev Adams. C'est le plus jeune parrain pour cette opération qui démarre demain sur France Télévisions. Ils sont tous les deux nos invités. Ils ont d'autres actus. Un nouvel album pour Yannick Noah qui sera sur la scène de C'est à vous. Puis un nouveau spectacle pour Kev Adams, le surdoué de l'humour autour du dîner préparé par un surdoué de la cuisine, Christophe Maury, accompagné d'un surdoué de l'humour, Bertrand Chamerois. C'est l'émission des surdoués.
Ouais, c'est ça. Vous en êtes une autre, Babette.
Oh.
Bonsoir, Babette, bonsoir à tous. Chaque geste compte. Ce matin, Olivier Véran a appelé les Français à ne pas tous allumer leur plaque de cuisson en même temps à 19h. Il est 19h. Je demande à tous les Français de lever les mains, d'éteindre leur plaque de cuisson pour permettre à Christophe de préparer le repas. On évite une coupure de courant. Qu'allez-vous nous préparer, chef, ce soir?
De l'esturgeon avec un crémeux au safran, avec des pieds de cochon et un jus d'étrille.
Vous pouvez y aller, les Français m'ont dit qu'ils avaient tous éteint leur plaque de cuisson. C'est parti.
On y va.
Bonne émission.
Merci beaucoup à eux d'être solidaires de Christophe Maury aux cuisines de C'est à vous. Cabinets médicaux fermés aujourd'hui et demain. Les médecins libéraux n'avaient pas fait grève en France depuis 7 ans. Ils sont même descendus cet après-midi sous vos fenêtres, monsieur le ministre. Reportage pour C'est à vous de Louis Amar et Anaïs Recouli.
Nous sommes en grève parce que c'est un vrai ras-le-bol des médecins. Nous demandons une revalorisation de la consultation de base à hauteur de 50 euros.
La moyenne européenne de la consultation, elle est à 50 euros, donc on est tout à fait dans les clous.
Notre ministre de la Santé trouve qu'une consultation à 50 euros n'est pas crédible et qu'il est intolérable de ne pas trouver des médecins en France à toute heure du jour, de la nuit et partout sur le territoire.
On a de moins en moins de temps pour soigner les malades. Ça, c'est notre principale revendication. On veut libérer du temps pour les malades.
Mon prédécesseur et ses associés, ils avaient deux secrétaires à temps plein qui leur mâchaient un boulot terrible, qui était un accueil important pour le patient. On est tellement submergé de charges pendant que la valeur de la consultation a diminué qu'on en a été réduit à ne prendre plus qu'une secrétaire et à mi-temps.
Moi, c'est vraiment l'administratif qui me pourrit la vie. Après, la société va mal, donc on a beaucoup de gens en burn-out. On doit faire beaucoup de soutien psychologique, d'éducation. L'éducation parentale, ils sont dépassés les gens. Et bien ça, ça prend du temps, on ne peut pas faire ça en 15 minutes. Et on met souvent plutôt 3 quarts d'heure pour faire ça. Et à 25 euros, c'est clair que c'est absolument pas possible.
Les revendications des médecins généralistes, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Et cette question, Patrick, les médecins français sont-ils parmi les plus mal payés d'Europe?
Non, la consultation de base de 25 euros est l'une des plus basses d'Europe, c'est vrai. La moyenne européenne est bien plus élevée, autour de 45 euros, c'est vrai aussi. Mais non, les médecins français ne sont pas les plus mal rémunérés. Il faut d'abord souligner le caractère périlleux de ces comparaisons européennes, parce qu'il n'y a pas deux systèmes de soins qui soient pareils. Entre les médecins libéraux rémunérés à l'acte, comme en France, en Allemagne, en Belgique ou en Suisse, les médecins salariés des centres publics, comme en Espagne ou au Portugal, pays où il y a un système national de santé mais pas d'assurance maladie, c'est le cas aussi du Royaume-Uni, les médecins libéraux qui n'exercent pas seuls mais partagent des cabinets communs comme aux Pays-Bas ou en Italie, eh bien les conditions d'exercice, les astreintes, les modes de rémunération sont aussi dissemblables que possible. Mais ce qu'il est facile de comparer, ce sont les revenus. En 2017, les médecins libéraux ont déclaré un revenu annuel moyen de 120 000 euros, charges déduites, 152 000 euros en moyenne pour les spécialistes, 92 000 pour les généralistes, avec de très fortes disparités, c'est-à-dire que les 10% les mieux rémunérés gagnent 4 à 6 fois plus que les 10% les moins bien payés. Mais globalement, en moyenne, ils ont des revenus plus élevés que 98% des Français et naturellement plus élevés que ceux des médecins hospitaliers qui manquent cruellement.
Et pour combien d'heures de travail, combien de temps passé par consultation à 25 euros?
Alors les généralistes travaillent beaucoup, 54 heures par semaine, dont 44 passées avec leurs patients. Mais pour chaque malade, c'est à peine plus d'un quart d'heure, 18 minutes. C'est le temps moyen déclaré par les médecins eux-mêmes dans une étude de 2019. Dans la vraie vie, c'est peut-être un peu moins, hein, c'est du déclaratif. Et c'est le problème de la tarification à l'acte qui encourage les consultations express, même si c'est en partie compensé par la ROSP, la rémunération des objectifs de santé, sur objectifs de santé publique créés il y a 10 ans. Vous voyez que je n'ai pas cherché à simplifier le dossier.
La revendication des grévistes d'obtenir un doublement de leur tarif de 25 à 50 euros, est-ce qu'elle est raisonnable?
Non, il est difficile de prendre au sérieux cette demande de 100% d'augmentation dans ce contexte de crise de l'hôpital, d'inflation, de menace généralisée sur le pouvoir d'achat et sur les plus petits revenus. Cela dit, le mouvement vise d'abord à peser sur la négociation qui vient de commencer avec l'assurance maladie. Et au bout du compte, il y aura sans doute une revalorisation. Mais avec un autre sujet d'opposition majeur, ce que vous appelez, monsieur le ministre, le partage des tâches, la faculté qui pourrait être donnée aux soignants non-médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés, de pratiquer certains gestes médicaux ou du moins de suivre des patients, de renouveler des ordonnances. Le but est d'élargir l'offre de soins, de répondre en partie à la pénurie de médecins et à la question des déserts médicaux. Il faut rappeler que 6 millions de Français sont sans médecins traitants. Partage ou délégation de compétences, de responsabilités qui font horreur aux syndicats de médecins. C'est l'un des paradoxes de cette crise. Les médecins se disent débordés, submergés, on vient de les entendre. Ils le sont, mais ils rechignent ou refusent de déléguer.
On reprend dans l'ordre. D'abord, sur la revendication de doubler le prix des consultations de 25 à 50 euros. Vous pensez aussi que c'est déraisonnable ?
Vous savez, j'ai été longtemps syndicaliste, chez le milieu des urgentistes, et on démarre toujours les négociations par une épreuve de force, quelque part.
Donc on demande 50 pour obtenir 30, quoi.
Vous avez très bien dit, c'est que c'est une entrée dans la discussion et que ce n'est pas raisonnable. Par contre, ce qui est important, plus que c'est des discussions sur le prix de l'acte, vous avez parlé de la ROSP d'ailleurs, il y a également le forfait médecin traitant, enfin, il y a beaucoup d'autres forfaits.
C'est une complication épouvantable.
C'est très compliqué, je suis d'accord. Je crois que ce qui est important, et je l'ai dit dès que je suis arrivé, c'est que nous devons répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.
Mmh. Vous parliez de 6 millions. Parce que le nombre de généralistes a reculé de 6%. Augmenter le tarif de la consultation, c'est aussi une façon de rendre plus attractif.
Vous savez, on forme plus de médecins. On forme aujourd'hui plus de médecins grâce à l'arrêt du numerus clausus. Quoi qu'on dise, on forme 13% de médecins en plus aujourd'hui. On va continuer à augmenter. Il faut 10 ans pour former un médecin, donc ça ne va pas arriver tout de suite. Le problème, il est lequel? C'est qu'on a une demande de soins de la population, parce qu'on a une population qui est plus nombreuse, qui est plus âgée, qui a plus de besoins de santé, et on a un nombre de médecins qui est plutôt en phase de diminuer. Donc on a une diminution de l'offre. Il faut faire un équilibre entre les deux. Alors, moi, je suis descendu d'ailleurs discuter avec eux depuis mon bureau là tout à l'heure, pour être vraiment, voir un peu, vous savez, moi, ma méthode, c'est d'aller sur le terrain et discuter avec les gens. Et effectivement, il y a cette revendication, mais il y a aussi des revendications sur faire moins de bureaucratisme. Mmh. Et ça, je les rejoins complètement.
Oui,
il
ça,
faut leur
à l'hôpital,
donner du temps médical.
On nous en parle beaucoup.
Hôpital et en ville, ils ont les mêmes problèmes en ville. Moi, je veux que les médecins, les soignants d'une façon générale, aient du temps et plus de temps
Donc
pour voir plus de patients. Eh bien, on leur fait ce qu'on peut appeler du travail aidé, On le fait depuis le précédent quinquennat, ces assistants médicaux qui sont là pour préparer la consultation, ça permet à un médecin d'avoir 10% de patients en plus. Donc on va continuer à les développer. J'ai donné un objectif de 10 000 en 2025, qui sont un peu plus de 3 000 aujourd'hui. On va leur donner du temps. On va travailler sur les différents niveaux de consultation. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a 3 niveaux de consultation. 25, 46 et 60 euros, en fonction des complexités des cas. On voit bien qu'on a un système qui mérite de la simplification. Mais l'objectif, et je le redis, c'est, bien sûr, vous avez des droits, et moi je suis prêt à en discuter, mais nous avons collectivement des devoirs qui sont de réponse aux besoins de santé de la population.
Et notamment d'assurer la continuité des soins malgré la grève.
Oui, bien sûr, assurer la continuité des soins, avoir un médecin traitant, peut-être pas pour les 6 millions dont vous parlez, parce que dedans il y a des gens jeunes qui ne veulent pas forcément de médecin traitant.
On a des témoignages de gens qui ne trouvent pas de médecin traitant.
On en a 600 000 qui sont en affection de longue durée, c'est-à-dire que les gens savent bien ce que c'est ALD, des pathologies chroniques qui doivent être suivies de près, 600 000 qui n'ont pas de médecin traitant. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, les négociations, c'est ça, c'est quels sont les devoirs et quels droits on met en face. Les négociations ont débuté, on a jusqu'en avril pour les termes.
Est-ce que vous mettez les permanences aussi, permanences de garde pour les médecins, parce qu'il y a à peu près 60% de médecins qui n'y participent pas?
Alors, il y a 60% de médecins qui n'y participeraient pas, mais pour autant, c'est couvert dans beaucoup de territoires. En fait, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier ce qu'on appelle la garde, la nuit, le week-end. Les Français doivent avoir une réponse de santé. Je reviendrai, si vous voulez, sur cette réponse de santé, qui n'est pas forcément médicale.
Pour soulager les urgences.
Mais aussi pour répondre aux besoins. Ce n'est pas forcément un médecin en première ligne. On a vu dans les mesures que j'avais prises cet été, et qui sont continuées là, qu'une infirmière avec une valise de télémédecine, envoyée par la régulation médicale, pouvait faire l'affaire. Et puis, il y a trouvé un médecin.
Mais c'est ce que ne veulent pas les médecins généralistes, justement. Déléguer des soins qui leur sont propres, pour lesquels ils ont été formés, pour lesquels ils ont fait de très longues études.
Oui, mais je crois qu'il y a un moment donné...
10 ans d'études.
Oui, 10 ans d'études, justement. 10 ans minimum. Maintenant. Mais je crois qu'il y a un moment donné, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. On a des besoins qui augmentent, on n'a pas des troupes qui augmentent. Donc il va bien falloir qu'on voit comment répartir les choses. Prenez l'exemple des ophtalmos, par exemple. On a beaucoup de mal à avoir en ophtalmo encore aujourd'hui, mais ça va mieux qu'il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que les ophtalmos travaillent avec ce qu'on appelle les orthoptistes, qui peuvent faire les examens de la vue, tout ce qui prenait du temps... et où la plus-value médicale n'est pas parfaite. Et au contraire, à côté, on a les ophtalmos. Là, j'étais, juste sur cet exemple ophtalmo, si vous voulez, hein, j'étais avant-hier à Mayotte. Quand on parle de désert médical, il faut aller voir l'île de Mayotte quand même. Et d'augmentation des besoins, c'est quand même très, très fort. Eh bien, dans un gros bourg, dans le nord de Mayotte, il y a un cabinet médical qui s'est installé, qui fait de la télémédecine en ophtalmo, avec des ophtalmos qui sont en métropole. Avec du matériel qui permet de faire un fond d'œil, mais c'est remarquable.
Et c'est la même qualité, c'est-à-dire.
C'est la même qualité. Et des ophtalmos viennent une fois par semaine ou deux fois par semaine. Mmh. C'est la même qualité. Je crois qu'il faut qu'on. La médecine doit rentrer dans le 21e siècle. Et si on gagne du temps pour les médecins, eh ben ça leur permettra aussi de passer plus de temps avec les patients, de parler prévention avec eux, bref, de prendre du temps.
Il n'y a pas que les médecins généralistes qui sont en grève aujourd'hui. Se sont joints les laboratoires d'analyse qui sont d'ailleurs à leur deuxième mobilisation. Ils pourraient rester fermés jusqu'à samedi au moins. Le point de tension, ce sont les 250 millions d'euros d'économies par an que vous leur réclamez après avoir fait des profits pendant le Covid grâce aux tests notamment. Ce qu'ils disent là, c'est qu'ils sont d'accord sur le montant à récupérer, mais pas sur la manière. C'est ce que nous a confirmé Thierry Boucher, président du syndicat des laboratoires de biologie clinique.
Vous considérez que vous êtes maltraité par le gouvernement ?
C'est le moins qu'on puisse dire, parce que déjà que des syndicats acceptent la proposition d'un gouvernement qui vous demande 250 millions, où dès le départ nous avons dit pas de problème, on va les payer, ça me semble quand même assez hallucinant qu'on n'ait toujours pas de réponse. Donc vraiment, on est considéré comme des moins que rien, alors que nous avons quand même un maillage territorial sur toute la France de plus de 4200 labos, et que je pense que la population est quand même très satisfaite de ces implantations.
Donc vous êtes prêt à dire aux Français, pas de PCR pour Noël par exemple ?
C'est une possibilité, pas de PCR pour Noël.
C'est une possibilité, qu'est-ce que vous leur répondez, le fait d'avoir le risque de ne pas pouvoir se tester à Noël ?
Je réponds que prendre en otage les Français est inacceptable pour moi, quelle que soit la raison. La grève est un droit institutionnel que je respecte totalement. Mais prendre en otage la santé des Français, vous comprendrez qu'en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, je ne peux pas accepter ça. Maintenant, sur le fond du dossier, Bon, on va parvenir sur les profits qu'ont fait ces laboratoires pendant la période Covid. Ils ont assumé leur rôle, on leur a demandé d'être là. Ils étaient là, ils ont été présents.
C'était à la demande du gouvernement hein, que ces tests étaient gratuits. Donc
C'est un secteur qui grandit en termes de bénéfices, de plus de 15%. Je vais être gentil, je vais dire juste plus de 15%.
7 milliards de chiffre d'affaires, hein, c'est ça sur le...
Voilà, donc,
ça
bon, après, il y a des équilibres. Mais en tout cas, c'est un secteur qui est en très forte progression en termes de profits. Maintenant, nous avons un système qui s'appelle la sécurité sociale. Ce système, il est au service de tous les Français. Pour qu'il fonctionne, ben, il y a des dépenses et il y a des recettes. Moi, je suis comme le gouvernement, bien entendu. Je ne veux ni augmenter les impôts des Français, ni diminuer leurs droits en termes de produits de santé. Donc l'équilibre fait que les dépenses et les recettes doivent s'équilibrer. Ben, écoutez, ça ne me semble pas aberrant d'aller voir ceux qui ont fait les bénéfices les plus importants pendant cette crise et de leur demander une contribution. Alors c'est vrai qu'ils veulent bien payer cash sur la table, sur le profit Covid. Ce qu'on leur demande, ce que je veux leur demander, ce que je discute avec eux...
On ne peut pas diminuer leurs actes ou le prix des actes.
Ben, c'est un équilibre. Je pense qu'il faut un équilibre. Vous savez, je discute aussi avec des biologistes. J'en connais beaucoup qui me disent qu'il y a des actes. Franchement, ils sont rémunérés très fort. D'autres, peut-être pas assez. Donc dans la négociation, il y a cet équilibre entre une partie Covid, donc des bénéfices Covid, et une partie de diminution de certains actes. Et je leur dis, on discute avec vous. Et on discute avec vous de l'avenir aussi de la biologie. Parce que la biologie est en train de devenir aux mains de grands groupes financiers. Et ça, je ne veux pas entrer dans ce piège. Donc, discutons. Vous savez, ma méthode, c'est toujours la même. Il y a un objectif, et c'est mon rôle de fixer l'objectif. Et après, pour atteindre cet objectif, on discute. Il y a des chemins différents et on tombe d'accord sur un chemin. Mais c'est de ma responsabilité de fixer des objectifs de santé et de santé publique.
Le secteur médical qui va devoir faire face à une triple menace, la grippe, la broncholide et le Covid qui revient pour contrer cette 9e vague. La première ministre Elisabeth Borne a appelé solennellement les Français mardi à l'Assemblée nationale à porter le masque dans les transports. Pourquoi ne pas l'imposer? Est-ce que c'est une question qui est... aujourd'hui en réflexion, de rendre à nouveau obligatoire le masque dans les transports en commun, par exemple?
Cette crise Covid nous a appris une chose, et vous savez que je l'ai vécu en première ligne pendant la première vague dans l'Est de la France. Elle nous a appris l'humilité...
Vous étiez chef des urgences d'un hôpital de Metz.
De Metz. Elle nous a appris l'humilité face à cette crise. Pourquoi l'humilité? Parce que déjà, quand elle est arrivée, on ne s'attendait pas à une telle ampleur, parce qu'on a eu des répliques, des nouvelles vagues, parce qu'il y a des nouveaux variants, etc. Donc, quelles sont nos armes pour faire face à cette crise? Déjà, quelle est la situation? La situation est un hôpital qui va mal. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Il ne va pas bien, avec des difficultés de recrutement, des difficultés de poste, des difficultés de lits qui sont fermés parce qu'on manque de personnel.
Avec parfois des médecins qui disent trier les enfants. Hein. Notamment, ça, il a été question de ça avec des pédiatres au moment de la bronchiolite, mais les psychiatres aussi disent ça.
Si vous voulez, je reviens après sur cette notion de tri, parce que c'est quelque chose qui me... Voilà. Mais revenons sur notre situation. Donc un hôpital qui va mal. Trois crises infectieuses, bronchiolite, grippe qui arrive, bronchiolite qui est là, grippe qui arrive, Covid qui redémarre assez fort d'ailleurs, hein, avec des taux de contamination qui augmentent. Les patients graves, ils vont aller où? Ils vont aller à l'hôpital. Donc on va surcharger encore plus le système de santé à l'hôpital, on va le mettre encore plus en danger. On le voit bien avec les difficultés avec la bronchiolite. Face à ça, la réponse, elle est sur deux jambes. La jambe la plus importante, c'est la vaccination. Et il faut se vacciner. Il faut faire vacciner les personnes fragiles. Ça, c'est impératif. Et j'en appelle vraiment à tout le monde. Faites vacciner les personnes fragiles de plus de 60 ans.
Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. On en est qu'à 21% des plus de 80 ans, 37% des 60-79 ans.
Et c'est dramatique.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ras-le-bol du vaccin, une sorte d'overdose?
Il y a sûrement un ras-le-bol, mais si vous dites qu'il n'y a que 20% de vaccinés, mais c'est les 80% qui ne le sont pas qui vont mourir et qui vont aller en réanimation. On meurt encore, toujours, tous les jours, de Covid en France.
Vous disiez...
Donc il faut être raisonnable. Hein.
Un décès toutes les 10 minutes?
Non, ce n'est pas une histoire de chiffres. Alors après, ça dépend
le
jour que vous prenez.
C'est l'un des chiffres que vous avez avancés.
Oui, ça dépend quel jour vous prenez dans la semaine. Des fois, c'est 10 minutes, des fois, c'est une demi-heure, mais... Le chiffre importe peu, on meurt toujours. Et on meurt pourquoi? Parce qu'on n'est pas vacciné. Ou parce qu'on a été contaminé par une personne qui est proche de vous et qui n'est pas protégée, qui n'est pas vaccinée. Vaccination Covid, vaccination grippe, l'année prochaine, vaccination bronchiolite qui arrive. Donc on va réussir, mais on a cet hiver à passer. Et puis à côté de ça, il y a tous les gestes barrières. Les gestes barrières, le lavage de mains, parce que c'est souvent comme ça qu'on apporte la bronchiolite chez soi, parce qu'on prend les bébés alors qu'on ne s'est pas lavé les mains avant. le port du masque, qui est quelque chose d'efficace. Et le port du masque quand? Eh bien, quand on est dans des conditions où on peut se contaminer les uns les autres, dont les transports en commun.
Est-ce que vous consultez en ce moment pour savoir s'il serait utile de le rendre à nouveau obligatoire, s'il serait pertinent de le rendre à nouveau obligatoire?
Dans les lieux fermés.
Mais je consulte tous les jours. Le COVARS que nous avons mis en place, c'est un système
donc
de veille et d'alerte.
Donc c'est une question qui est sur la table.
Mais elle est tout le temps sur la table, si vous voulez. Le COVARS, c'est ma vigie. C'est ma vigie pour toutes ces pathologies infectieuses
Qu'est-ce
émergentes.
Qu'est-ce qui vous ferait décider une obligation, le retour de l'obligation du port du masque?
Je suis, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer, comme la Première ministre, je suis pour que les Français assument cette responsabilité. Vous l'avez dit, ils commencent à être fatigués peut-être, mais les Français ont compris quand même ce qu'était le Covid maintenant. Ils ont compris qu'avec le masque, on se protégeait. Donc je fais le pari de dire, de renforcer encore ça, de dire, mais prenez votre responsabilité, mettez le masque si vous ne voulez pas qu'on soit enquiquiné demain, mettez le masque si vous ne voulez pas qu'on ait de nouveau des morts supplémentaires, mettez le masque. Moi, je crois en la bonne volonté des Français quand on leur explique. Et vaccinez-vous. Voilà, maintenant, je vous l'ai dit, humilité, en fonction de l'évolution, on pourra être amené à prendre d'autres mesures.
Avant de passer la parole à Pierre, hier en Une du Monde, 10 000 soignants en pédiatrie interpellaient le président de la République en lui demandant de réagir. Mardi, ce sont les psychiatres qui manifestaient en demandant plus de moyens. Camille Schmitt les a rencontrés.
On est obligé de choisir les patients qu'on prend en charge, de les renvoyer des autres. Enfin, on n'est pas capable au jour d'aujourd'hui de faire face à la masse et à l'afflux des patients qui demandent des soins en psychiatrie.
On ne fait plus de la psychiatrie. Hein, on ne soigne pas les patients, on ne les soigne pas comme il faut. On leur donne des médicaments et puis quand ils sont un peu, ils bougent un peu, ben on les attache et puis voilà, maintenant c'est la psychiatrie quoi.
Le manque de moyens se fait de plus en plus criant.
Oui, mais c'est le manque de moyens humains en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont présents, qui sont ouverts dans de nombreuses structures, mais ces postes ne sont pas occupés.
On reçoit Monsieur Braun. Si vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez?
On s'assoit autour d'une table, on discute, écoutez-nous. Vous êtes un médecin, vous êtes un syndicaliste. Nous sommes tout à fait prêts à collaborer avec vous. Faisons ensemble.
C'est l'un des secteurs hospitaliers en souffrance. C'est pas le seul, vous le savez. Beaucoup d'hôpitaux sont en très grande détresse. Des services des urgences, on a eu des échos, des témoignages de drames aux portes des urgences avec des malades qui meurent sur des brancards. Quand est-ce qu'on en sort et quelles sont les solutions que vous allez mettre en œuvre?
Quand est-ce qu'on en sort le plus vite possible? On ne peut pas rester éternellement dans cette situation. Mais là non plus, je ne vais pas raconter l'histoire aux Français. Quand on dit « il nous faut des médecins », oui, il faut des médecins, mais il faut 10 ans pour former un médecin. Donc ce qui a été fait sur Numerus Clausus au quinquennat précédent, qui augmente de 13% pour l'instant le nombre de médecins en formation, ça va avoir ses effets dans 5 ou 6 ans. Si vous voulez, moi, mon objectif, il est presque triple, je dirais. Un, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tout de suite, en urgence? C'est peut-être mon côté urgentiste qui fait ça. Quel traitement symptomatique on donne? Quel paracétamol on donne pour la fièvre? Ensuite, la fièvre est due à quoi? Qu'est-ce qu'on donne comme traitement de fond? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne revienne pas?
Alors, sur l'urgence?
Sur l'urgence, vous parlez de la pédiatrie. On a quand même, le gouvernement a quand même mis tout de suite plus de 500 millions sur la table pour renforcer au niveau de la permanence de soins la nuit, pour renforcer cette pénibilité, la payer mieux, pour faire accéder des gens qui n'y étaient pas à une certaine prime. Bref, on a fait ce qu'on peut, mais avec les troupes que l'on a.
Pour éviter les tris de patients, c'est ce que disent les pédiatres, c'est ce que disent aussi les psychiatres.
Les tris, je me suis clairement positionné contre ce terme. Pourquoi? Parce que c'est un terme, et je comprends mes confrères, c'est pas le problème de fond, mais c'est un terme médical. Et c'est un terme qui vient des urgences, d'ailleurs. Donc j'en sais quelque chose. Le tri, ça ne veut pas dire qu'on trie qui on va soigner et qui on ne soigne pas.
On soigne tout le monde.
Le tri, ça veut dire que cette personne-là va passer avant une autre parce que son cas est plus prioritaire. On le fait, on l'a toujours fait, et c'est comme ça que tournent les services d'urgence. Il y a des situations, et j'avais eu l'occasion de m'expliquer là-dessus pendant le Covid, où on nous disait « vous triez des malades qui vont en réanimation », mais on trie tous les jours des malades qui vont en réanimation. Mais ce terme médical de tri n'est pas compris. Et on fait peur à la population. Et mal utiliser un mot, ça en rajoute encore. Entre médecins, on se comprend. Mais on ne comprend pas avec la population.
Nous sommes le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous portez, monsieur le ministre, le ruban rouge. Pour continuer à alerter sur cette maladie, l'association SIDAction a demandé à des artistes qui ont fait des tubes dans les années 80 de les revisiter pour souligner l'importance de se protéger. C'est ainsi que Banana Split de notre Lio national est devenu Banana Safe. Elle le fait avec le sourire, mais ce qu'il faut, bien sûr, à travers ce sourire-là, c'est alerter pour dire « attention, le sida tue encore si on y prend garde ».
Oui, le sida est toujours là, bien entendu. C'est 175 000 de nos concitoyens qui sont malades du sida, qui prennent un traitement. C'est 5 000 cas qui sont découverts tous les ans, de gens qui sont séropositifs. Et c'est une estimation de 25 000 personnes qui ne connaissent pas leur situation vis-à-vis du sida, s'ils sont positifs ou pas. Donc oui, c'est toujours un problème de santé publique, même si nous avons des traitements, et des traitements curatifs, bien sûr, mais également le traitement préventif, que la France est le seul pays à avoir mis en place, remboursé à 100%, qui peut être prescrit par tout médecin maintenant. Donc nous avons des outils, nous avons des armes, mais le sida est toujours là. Et il faut absolument continuer ces messages de protection.
D'autres sujets à vous soumettre, monsieur le ministre, et notamment celui du pari en ligne. Les parieurs en ligne qui ne boycottent pas la Coupe du Monde au Qatar, le tournoi qui doit durer jusqu'au 18 décembre, pourrait même s'arroger le record des paris sportifs effectués via Internet.
Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Alors, à titre comparatif, la Coupe du Monde 2018 avait généré 366 millions d'euros de mises sur les sites de paris sportifs. Alors, ça comprend tous les paris effectués sur les sites des grands opérateurs agréés. L'an dernier, l'euro a généré 435 millions d'euros de paris. Or, pour cette Coupe du Monde, nous en sommes déjà à 200 millions d'euros de mises et nous ne sommes que le 1er décembre. Il reste encore près de 3 semaines, ce qui fait dire à l'autorité nationale du jeu que les mises pourraient atteindre au moins 600 millions d'euros, ce qui serait un record. Si les audiences des matchs montraient déjà qu'on est loin du boycott de cette Coupe du Monde, les paris le confirment. Avant le début de la compétition, plus d'un Français sur trois avait l'intention de parier de l'argent lors de ces rencontres, tendance qui va pouvoir s'amplifier au fur et à mesure que les Bleus vont gagner. La Coupe du Monde est au pari sportif ce que Noël est au magasin de jouets. Le Mondial réunit tous les ingrédients pour inciter à parier, ce que les opérateurs d'ailleurs ont bien compris. Malgré une nouvelle charte signée cette année pour réguler les publicités, que ce soit sur leur nombre ou sur leur contenu, il est difficile de les compter avant, pendant et après un match. Et puis la notion de plaisir qui est censée être limitée dans les pubs de Paris, elle est toujours là.
Quand on parie en live sur BeIN, le foot ne se vit plus de la même façon. Pour Léo, le match de la France est tout de suite plus...
Pariez sur le plaisir en retrouvant votre programme avec Davos. Avec le nouveau Davos, pariez sur le plaisir.
Retrouvez votre match avec Scamanou. Scamanou, le plus important, c'est de gagner.
Bonsoir Mehdi Touati.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir de votre addiction au pari sportif et du combat que vous menez avec succès depuis plusieurs mois pour vous en détacher. Ces publicités là qu'on vient de voir, elles sont littéralement à l'origine de votre addiction. C'est en les voyant que vous avez eu l'idée de parier. Jusque-là, vous n'aviez jamais joué à un seul jeu d'argent.
Exactement. Je n'avais jamais acheté un jeu à gratter de la Française des Jeux. Je n'étais jamais entré dans un casino. Je considérais ça comme un jeu de hasard, donc forcément, j'ai plutôt l'esprit cartésien, donc non, jouer à pile ou face, c'était pas mon truc.
Mais voilà, vous avez été attiré par ces publicités, vous êtes tombé dans le piège dans lequel tous les parieurs tombent, c'est que le premier pari est remboursé.
Exactement. Le premier pari est remboursé, donc vous vous dites, j'ouvre un compte, je perds, je récupère mon argent. Mais vous avez ce petit sentiment d'adrénaline qui fait, lors du tout premier pari, qui fait que, bon, ben, j'ai perdu mon premier pari, maintenant qu'ils sont sur le compte, je vais les rejouer.
L'adrénaline est le sentiment qu'on gagne parce qu'on a les bonnes analyses. C'est-à-dire qu'on oublie justement que c'est un jeu de hasard.
C'est exactement ça. Il arrive un moment où vous vous dites, au premier gain, En fait, je suis plutôt pas mauvais. J'ai peut-être une expertise qui ne vaut pas celle d'un entraîneur avec un passé de 60 ans derrière lui de football. Mais si j'arrive à gagner quelques milliers d'euros, pourquoi pas ?
C'est ce qui vous est arrivé. Hein. Vous avez eu de gros gains. Mm-hmm. À plusieurs reprises avant de les reperdre les mois qui ont suivi. Vous alliez jusqu'à miser 500 euros par semaine en moyenne. Quand on demande à un addictologue comment on devient addict au pari en ligne, il répond « c'est comme pour la drogue ». C'est ce que vous diriez aussi ?
C'est comme pour la drogue, c'est comme pour l'alcool, c'est comme pour le tabac.
C'est-à-dire c'est un plaisir au début, ça devient un besoin ?
C'est exactement les mots. C'est-à-dire c'est un plaisir, ça crée du bonheur, très clairement. Très vite, ça prend de plus en plus de place dans votre vie et ça devient indispensable. C'est même au-delà du besoin.
Cette addiction, elle vous a angoissé, elle vous a isolé, elle vous a poussé à vous endetter, à usurper l'identité de votre compagne pour utiliser sa carte bleue, à voler de l'argent à votre mère. Ça a ruiné un pan de votre vie. Vous maudissez littéralement le jour où vous avez créé votre premier compte de parieur.
Avec votre permission, vous avez dit ça a ruiné ma vie. Non, j'ai ruiné ma vie moi-même. C'est de la responsabilité personnelle, je pense. Je vais vous prendre l'exemple de mon papa. Il va retirer 50 euros dans la semaine. Il lui dure toute la semaine jusqu'au dimanche minuit. Même, il lui en reste. Je retire 50 euros le lundi. Le mercredi, il n'y a plus rien. Quelqu'un de plus raisonné, qui aurait peut-être été plus responsable, ça aurait peut-être pas tombé dans le piège. Moi, le fait est que je suis un grand rêveur depuis tout petit. Et en fait, j'ai oublié ce point de détail où non, ce n'est pas un jeu de... Oui, c'est un jeu de hasard. Et non, je ne deviendrai pas riche. Non, je ne vais pas amener maman en voyage.
C'est ce que vous diriez aux jeunes, là, et aux moins jeunes qui sont accros aux paris sportifs.
Déjà, aux mineurs, je leur dirais, c'est interdit, ne pariez pas. Vous êtes hors la loi, tout simplement. Et ensuite, si vous me permettez 30 petites secondes, je suis issu d'un quartier dit populaire. J'ai eu un parcours de vie pas toujours facile, mais Mehdi, tu n'y arriveras pas. Mehdi, tu n'as pas les épaules. Mehdi, tu rêves trop grand. Et en fait, ma plus grande fierté, c'était qu'à 35 ans, j'ai donné tort à tout le monde. Je m'en suis sorti, je m'en suis plutôt même bien sorti. J'avais un revenu qui était supérieur au revenu de mes deux parents lorsqu'ils étaient salariés. Et cerise sur le gâteau, j'avais trouvé l'amour de ma vie. Depuis tout petit, je me vois comme le prince charmant, que je ne suis pas forcément d'ailleurs, et qui trouverait sa princesse, et voilà, très Disney. Après, je me suis fait interdire de jouer moi-même, après un an de pratique, parce que j'ai senti que je commençais à sombrer. 3 jours après mon interdiction de jeu, j'usurpe, comme vous l'avez dit, l'identité de ma compagne de l'époque, pour pouvoir rejouer. C'est ce qui a doucement, doucement précipité la chute. Elle est partie le 11 avril dernier. J'ai été accueilli par ma maman, comme vous l'avez dit. C'est le premier amour de ma vie. C'est ma maman. Pardon. Elle m'a mis au monde. S'il devait y avoir qu'une personne, c'est elle. Et j'ai commis l'irréparable. J'ai mis la main dans un sac.
Voulez-vous de l'argent pour pouvoir parier ?
Exactement.
Vous venez de raconter votre histoire, vous êtes exactement la cible des publicités, de certaines publicités, justement des paris sportifs, c'est-à-dire s'adresser aux jeunes issus de quartiers populaires et leur faire miroiter un changement de statut social. D'ailleurs, depuis, il y a eu des chartes qui ont été signées pour réguler ces publicités. D'ailleurs, il y a des pubs, là on voit un extrait de Tout pour ma daronne qui ont été interdites, parce que justement, elle véhiculait ce message de une maison pour la daronne, je vais gagner de l'argent pour elle, pour lui faire changer de statut social, l'amour de votre vie. Alors, on a demandé donc à Morgane Ostri, qui est de l'Autorité nationale du jeu et de la protection des mineurs, si ça avait vraiment changé.
Le pari sportif peut susciter certaines fausses croyances, hein, telles que l'on peut gagner sa vie grâce au gain des paris sportifs. La NJ, effectivement, s'est prononcée notamment sur la publicité Tout pour la daronne de Winamax, et elle en avait exigé effectivement le retrait. Pour nous, ce qui posait problème, c'était cette notion aussi de réussite sociale qui déroge effectivement au cadre fixé par le décret qui encadre la publicité.
Ça suffit, ces règles, ces changements, ce retrait de cette publicité?
Non. C'est un premier pas, mais...
Il faudrait toutes les interdire, quoi, c'est ce que vous dites. Comme il n'y a pas de publicité pour l'alcool à la télévision.
Vous vous souvenez, il y a peut-être 40 ou 50 ans, je n'étais pas né, mais il me semble qu'il y avait des publicités pour les cigarettes à la télé. Mmh. Elles n'y sont plus aujourd'hui. Vous avez ma réponse.
Il faudrait interdire ces publicités, François Braun.
Je pense que monsieur nous a tout dit. Voilà, effectivement, il faut se pencher sur toutes les addictions. C'est une addiction qui prend de l'essor. Et, c'est de ma responsabilité, hein, et de médecin et de ministre de la Santé, de lutter contre toutes les addictions. Donc le sujet est sur mon bureau.
Afin de sensibiliser aux risques de ces paris, vous l'avez tellement bien illustré, le service d'écoute Joueur Info a lancé en octobre dernier une campagne de prévention avec l'addictologue Laurent Carilla et un certain Mohamed Bouafsi.
Tout est fait pour que ces gamins puissent se glisser et puissent se perdre. On leur dit, on t'offre 100 euros pour démarrer et pour jouer. Et donc le gamin, il commence, il s'inscrit sur un site de paris sportif. Parfois, il va même gagner. Et là, démarre la descente aux enfers. Et encore pire, celui qui perd dès son premier pari et qui se dit, oh non, vas-y, j'ai pas envie d'être ridicule.
Il y a cette spirale stéréotypée, hein. Le gain, la perte, l'espoir de se refaire, le désespoir.
Parier, c'est pas rien.
Et ce slogan, parier, c'est pas rien, il vous a marqué?
C'est... Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à M. Bouafsi. Il y a une phrase que parier, ce n'est pas rien. Et au début de mon histoire avec les paris, pour moi, parier, c'était rien. Après tout, je vends des cuisines équipées, je gagne 3500 euros par mois. Qu'est-ce que c'est, 200 ou 300 euros? C'est rien du tout. Sauf que j'ai toujours été... Je suis poisson de signe astrologique. Il m'a toujours fallu une addiction depuis tout petit. Ça a été la lecture, ça a été le karaté, ça a été l'école. Ça a été l'amour ensuite, et là c'est une application téléphonique qui a remplacé l'amour de ma vie.
Parier, c'est pas rien.
Parier, c'est pas rien.
Merci beaucoup Mehdi Touati d'être venu ce soir témoigner sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Jean-Baptiste Marteau.
Tenez bon.
Merci. On commence avec une démonstration d'amitié entre la France et les États-Unis cet après-midi à Washington.
Oui, c'est vraiment le moment phare de cette visite d'Emmanuel Macron outre-Atlantique, avec une réception en grande pompe. Vraiment, tout l'apparat d'une visite d'État y était lors de l'accueil du président français dans les jardins de la Maison-Blanche, avec Marseillaise, 21 coups de canon qui, d'ailleurs, ont été tirés un peu trop tôt, hein, en plein hymne national et pas après, comme le veut la tradition. Les deux présidents ont vraiment multiplié les gestes, les mots pour souligner l'amitié entre les deux pays. On a mis de côté pour l'instant les nombreux différends. Au cœur des deux discours cet après-midi, la guerre en Ukraine et l'unité face à Poutine.
France and the United States are facing down Vladimir Putin's grasping ambition for conquest and Russia's brutal war against Ukraine.
Face au retour de la guerre sur le sol européen suite à l'agression russe contre l'Ukraine et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes.
Et les festivités ne sont pas terminées. Après, il y a un tête-à-tête dans le bureau ovale, une conférence de presse qui a lieu en ce moment. Ce soir, ce sera smoking et robe longue de rigueur. Dîner d'État en présence de 350 invités. Alors, pour le menu, il y a homard, caviar, bœuf persil et fromage américain du blue cheese, hein, nous dit la Maison Blanche. Puis gâteau à l'orange en dessert. C'est pas mal, ça fait même saliver, monsieur le ministre de la Santé, mais ça fait beaucoup. Hier soir déjà, en tout cas, les couples Macron et Biden avaient dîné ensemble, alors pas à Washington, pas à la Maison Blanche en tout cas, mais dans un restaurant italien de Washington. Et alors, regardez cette photo, ça peut faire penser un peu à un diner américain, mais c'était en fait un établissement plutôt chic de la capitale fédérale. C'est un lieu très prisé de Barack Obama qui venait presque chaque année fêter son anniversaire. Voilà pour l'anecdote. Sur le fond, un gros sujet de discorde évidemment, le programme américain de subvention de 430 milliards de dollars pour aider leurs entreprises. Emmanuel Macron a préparé le terrain dès hier lors d'un déjeuner avec des parlementaires américains. Il avait dénoncé les mesures, je cite, super agressives prises par le président démocrate pour doper l'industrie américaine. Alors devant la communauté française un peu après, c'était la même chose sur le fond, sur la forme, c'était un peu plus diplomatique.
Les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
Voilà, on en parlait hier avec notre invité Gérard Araud.
On va rentrer dans le fond des discussions.
Ce qui est intéressant, c'est que juste avant la conférence de presse, il y a eu un grand communiqué commun qui abordait, un, l'Ukraine, deux, la nécessaire amitié franco-américaine, et rien de ce qui fâche pour l'instant. On va voir si, je pense,
dans la conférence de presse... On va voir si les messages passent. Finalement. Exactement. Tout autre chose avec cet imbroglio autour du match de l'équipe de France de football hier face à la Tunisie.
Bon, les Bleus terminent premier de leur groupe. Ils vont affronter la Pologne dimanche prochain en huitième de finale du Mondial. Ça, c'est sûr, ça ne va pas changer. Mais est-ce qu'ils ont perdu leur rencontre hier face aux Tunisiens ou bien est-ce qu'ils ont fait match nul? Bon, en clair, est-ce que ce but d'Antoine Griezmann à la 98e minute, il est valable? Ils ont fêté comme ça ou il est hors-jeu, comme l'a dit l'arbitre avec cette main levée, mais tardivement après la consultation de la VAR, l'arbitrage vidéo. C'est toute la question. La Fédération française de foot a en tout cas officiellement déposé un recours devant la FIFA aujourd'hui. Et en conférence de presse cet après-midi, bah forcément, on en a beaucoup parlé.
On aimerait comprendre un peu pour que si la situation se répète, qu'on sait à peu près comment réagir ou qu'on comprenne, parce que c'est un peu nouveau, qui siffle la fin du match. Donc on veut juste, on va dire, comprendre par rapport à la suite. Mais au jour d'aujourd'hui, on est qualifié, on va jouer la Pologne. Donc forcément, c'est toujours mieux d'avoir un match nul qu'une défaite dans son palmarès. Mais ce n'est pas ce qui changera vraiment le reste de la compétition. Ensuite, il y a des personnes qui travaillent et qui sont là pour faire les réclamations.
Bonsoir Yoann Rioux.
Bonsoir.
Journaliste sportif, consultant, notamment pour la chaîne L'Équipe. Ça vous a rendu dingue ou pas, cette histoire autour du but de Griezmann?
Là, c'est vrai, il se passe toujours quelque chose dans une Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, il y a le but de Griezmann, on pense que c'est fini, ça y est, la France a égalisé. Oui. Et c'est vrai que là, il dit donc d'arbitre à ce moment-là, donc il dit aux Tunisiens, bah, engager de nouveau, et il siffle la fin du match. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut croire que c'est vraiment fini, et c'est à ce moment-là où l'arbitre fait appel à la VAR, donc recours à la vidéo, et normalement, dans les règles, il n'y a pas, c'était pas possible à ce moment-là, il fallait le faire avant,
mais
non pas après avoir engagé. Mais là, la Fédération française aujourd'hui a décidé donc de faire un recours, et c'est vrai que ça peut paraître un peu mesquin, parce que franchement, la France est qualifiée pour dimanche, le 8e de finale, ça ne changerait rien à l'affaire. La Tunisie, en plus, méritait au moins dans la manière d'avoir joué sa victoire. Et franchement, je trouve qu'on est pointilleux, ça sert à rien. Là, on va se perdre.
On est mesquin, quoi.
Ouais, parce que on va se perdre dans des procédures. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Mais ça change rien dans l'ambiance au sein des Bleus. C'est pas pour aussi un peu le moral.
C'est plus peut-être par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que factuellement, c'est vrai que là, il y a eu une erreur, en tout cas de l'arbitre. Mais franchement, pensons à dimanche 16h. C'est un match extraordinaire, un huitième de finale contre la Pologne. Et là, s'embarquer dans des procédures, je pense qu'il y a un moment donné, on pouvait vraiment s'en passer et penser au bonheur tunisien.
Ah bah pour le principe, quand même.
Bah oui,
ou refuser un but après un coup de sifflet final. Je ne sais pas s'il y a un précédent.
Oui, mais c'est pas un peu proactif dans le sens. Oui, je comprends que factuellement, la fédération peut le faire, mais franchement, on sait, dans le sport, le match est fini, on a perdu ce match, ça ne change rien à l'affaire. Non, mais je comprends l'opposition du principe.
Alors, on aimerait bien se mettre dans la peau du commentateur sportif.
Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne une affaire d'État.
Bien sûr.
Mais ils ont posé le recours, on verra. Et c'est sur le principe, je trouve que c'est bien.
Alors, Yoann, on essaie de se mettre dans la peau du commentateur sportif. Là, vous êtes devant votre écran, vous êtes en train de commenter. Vous dites, ça y est, il y a but, il y a 1-0, ils ont égalisé. Oui. Puis derrière...
Non.
Bah non. Vous réagissez comment, vous?
Ben, c'est pas ça, moi ça m'est jamais arrivé encore. Et j'imagine la pression pour TF1 aussi, parce qu'il y a la pub derrière. On est déjà à 8-9 minutes d'arrêt de jeu. Donc moi, jamais je me permettrai évidemment de critiquer des confrères, des collègues. Surtout, c'est qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité. Il se passe tellement de choses aujourd'hui dans le foot. Il y a toujours des soucis, des problèmes. Et surtout, TF1, franchement, il fallait être à leur place aussi. C'est pas simple.
Il faut rappeler que TF1 a envoyé la pub avant qu'on connaisse ce but annulé.
C'est ça.
Parce que TF1, un peu trop tôt.
Parce que TF1, Jean-Baptiste dit tout simplement, regardez bien les images, l'arbitre a sifflé la fin du match. On voit d'ailleurs les joueurs tunisiens qui sont à terre, qui sont bah, évidemment très très tristes d'être éliminés. On voit des caméramans qui entrent sur le terrain. Et donc forcément, j'imagine TF1 se dit, ça y est, le match est fini.
Ouais. Mais vous, à l'équipe, vous n'avez pas rendu l'antenne?
Bah nous, on fait les matchs qui ne sont pas justement l'équipe de France. Nous, on fait les matchs qui sont sur Bein Sport. Mais nous, en général, on n'a pas de chance. Nous, il y a toujours des buts.
Les risques, évidemment.
Vous, il y a toujours des buts à quel moment?
Bah nous, il y a toujours des buts. Quand il y a la pub, justement. Donc nous, on va surtout pas le donner des leçons, parce que nous, on a un peu une malédiction. Dès qu'il y a une page de pub chez nous, déjà, il n'y a pas les images, et en plus, on rate les buts. Mais c'est catastrophique. Patrick, c'est un truc de dingue, ce qui nous arrive. On n'a pas les images, on n'a pas les sous, on n'a pas les buts, on a la pub, mais on s'amuse et on rigole, et on vit un coup du monde d'ailleurs extraordinaire.
Vraiment extraordinaire.
Et oui, parce que vraiment, il se passe des trucs incroyables, comme là, on va avoir un match magnifique contre la Pologne. Dimanche, Griezmann est dans une superbe forme. Giroud, qui a égalé le record de Thierry Henry, peut-être qu'il va le battre, qu'il va passer au-dessus. On a également Mbappé en énorme forme.
Il se passe oui, mais vous n'allez pas le commenter, ce match, Johan, rassurez-moi.
Non. Non, moi, je laisse évidemment les immenses Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu.
Donc, on va aller jusqu'où dans cette Coupe du Monde?
Oui. Je ne sais pas, Pierre. Il faut être humble à Pologne dimanche. Et si on passe, ça serait l'Angleterre ou le Sénégal, sûrement en quart de finale.
Johan, quand même,
donc, on peut aller en demi déjà.
Comment?
On peut aller en demi.
Ce serait beau, ouais.
Bah, face à la Pologne, quand même, sur le papier, ça, c'est à la portée des Bleus. On est d'accord.
Mais la Pologne, il faut quand même. La Pologne qui est un petit peu décevante en ce début de mondial, mais ils ont quand même un extraordinaire attaquant, Lewandowski, qui est un des meilleurs joueurs du monde, qui aurait pu avoir le ballon d'or une fois s'il n'y avait pas eu le Covid et donc le trophée n'avait pas été attribué, qui est dans une forme extraordinaire, qui porte cette équipe et qui est aussi un joueur extraordinaire, Lewandowski. Ils ont un super joueur de Naples également, Zielinski. Attention à la Pologne, ouais, c'est un coup fort.
Il a raison.
Qu'est-ce que vous ferez dimanche à 16h? Vous serez devant le match des Bleus? François Braun?
Oui, dites-lui.
Oui, il faut que les Français soient devant le match des Bleus, bien sûr. Moi, je crois pas que j'y serai parce que, un, j'ai un peu de travail. Deux, je comprends rien au football et ce que je viens d'entendre ne va pas mieux me faire comprendre. Par contre, j'aimerais bien vous entendre commenter un match de rugby. Ça doit être passionnant.
La Coupe du Monde dans quelques mois en France, ça va être magnifique.
Qu'est-ce que vous avez devant vous, Johan?
Parce que je ne savais pas sur quoi on allait m'interroger. On m'a dit, viens, dépêche-toi, viens. Et moi, j'ai préparé au cas où s'il y avait
des...
Vous avez préparé quoi?
Là, j'ai pris la composition d'équipe d'hier qui est totalement différente de... Parce que hier, c'était une équipe de remplaçants. Et moi, j'ai pris au cas où, si on me demandait vraiment des questions pointues et tout, j'ai pris des petits anti sèches. Pierre, je sais, je suis honteux, excusez-moi.
Sur les médecins, là.
C'est que n'importe quelle question, vous auriez. Par exemple, si je vous parle de la grève SNCF, vous auriez un truc à me dire?
Non. Ah, il y a grève, mais non, en fait, je suis tellement dans ma bulle, là. Avec la Coupe du Monde, il n'y a plus rien qui compte à côté, évidemment.
On rappelle que vous commenterez les prochains matchs du Mondial sans images, et pas ceux de l'équipe de France, sur la chaîne L'Équipe TV. Et oui, il y a grève. C'est même une grève surprise à la SNCF, qui débute demain pour tout le week-end avec d'importantes conséquences.
Je vais vous donner toutes les infos, Johan, rassurez-vous. En fait, seulement 40% des TGV et des intercités vont circuler demain, vendredi, samedi et dimanche inclus. Ce sont en fait les contrôleurs qui ont déclenché ce conflit au dernier moment, alors qu'en fait, la grève, elle était plutôt attendue pour le 7 décembre, au premier jour des négociations annuelles sur les salaires, d'où la surprise et la colère de certains usagers au micro de Camille Schmitt et Lucas Jossé.
Je suis de Marseille, je suis venu à Paris. Je devais rentrer impérativement le dimanche, puis je travaille le lundi. Il s'est avéré que le billet de dimanche a été annulé.
Mon train a été annulé, donc je suis rentré plus tôt, une journée plus tôt.
J'ai failli devoir annuler un voyage et j'ai réussi à m'arranger au niveau de mon travail pour pouvoir partir aujourd'hui. Mais c'est un petit peu compliqué.
Et pour les fêtes, on a décidé de ne pas bouger pour justement éviter d'être coincé avec les grèves, tout simplement.
Moi, je pense que ça commence à devenir très très lourd. Voilà, ils ne se rendent pas compte.
On subit et puis on prend les dispositions qu'il faut prendre, mais c'est tout, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Quoi.
Peut-être qu'ils veulent impacter leur direction, mais a priori, ce n'est pas eux qui trinquent, quoi, c'est les usagers.
Alors, grève surprise, dit la direction de la SNCF Voyageurs, qui, précisons-le, a refusé de répondre à nos questions aujourd'hui, c'est dommage. Du côté des syndicats, en revanche, on réfute complètement cet argument.
Pourquoi prévenir si tard? On se le demande, hein, de la part de la SNCF, puisque les préavis ont été déposés fin octobre par les trois organisations syndicales qui soutiennent ce mouvement. Donc on ne comprend pas et on comprend à la fois le fait de faire passer cette grève pour une grève surprise auprès des clients de la SNCF. Ça montre bien qu'il y a une volonté de la part de la SNCF
mettre la grève sur le dos.
Et cette grève n'est probablement qu'une mise en bouche avant ce qui nous attend pour les fêtes de fin d'année, puisque le gouvernement a rappelé hier qu'il annoncerait son projet de réforme des retraites aux alentours du 15 décembre. Donc de possibles grèves sont à prévoir dans la foulée. Et comme disait ZZ dans Le Père Noël est une ordure... Voilà. Peut-être que Noël, ce ne sera pas si terrible que ça s'il y a des grèves et qu'on ne peut pas partir en vacances.
Une réaction à la réforme des retraites là, qui sera annoncée aux alentours du 15 décembre, c'est le moment? François Braun?
Réaction, oui, déjà la procédure, la méthode actuelle que développe la Première ministre, concertation avec le ministre du Travail du SOPT, je crois que c'est la bonne méthode, on discute, on met en place. Après, l'objectif, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ma méthode, il y a un objectif, cet objectif, il faut l'atteindre. Si on ne l'atteint pas, on a un système qui n'est plus viable financement. Donc, il va falloir à ce moment-là augmenter les impôts ou trouver une autre solution. Donc, je crois que c'est effectivement la bonne méthode. Après, la temporalité, le fait est qu'on arrive à ce moment-là des discussions et qu'il faut aboutir.
Et on apprend dans l'instant, à l'instant dans Le Parisien que la première génération qui serait concernée par cette réforme des retraites, c'est celle qui est née au deuxième semestre de l'année 1961. Ça vous concernerait ?
Ah oui, ça voilà. Me concernerait.
Donc je vous l'annonce, bon, vous prendrez votre retraite un peu plus tard, monsieur le ministre. L'association de consommateurs UFC Que Choisir met en garde sur la dangerosité de certains moules de cuisine en silicone.
Oui, un moule en silicone, c'est en fait un ustensile de cuisine qui est de plus en plus répandu dans nos cuisines, très pratique pour faire des gâteaux et les démouler sans que ça reste accroché au fond du moule. Le problème, c'est que sur 29 moules étudiés par l'association, eh bien, on en a identifié 23 modèles qui représentent un risque pour la santé.
Alors, les moules en silicone, vous pouvez avoir plusieurs types de composants pour assurer la souplesse, la durabilité dans le temps, l'aspect, qui, à très haute température et de manière répétitive, et notamment avec la présence de matières grasses, qui est systématique quand on fait des pâtisseries, eh bien, sont plus à risque de migrer et donc de passer depuis le moule vers le gâteau qui va être cuisiné dedans. On a bien sûr la nocivité de certaines de ces molécules. Elles peuvent être susceptibles d'augmenter les risques de développer des cancers, des problématiques de perturbation endocrinienne ou de toxicité si on est exposé trop souvent et en quantité importante à ces molécules.
Bon, forcément, cette alerte, elle a suscité un petit peu d'inquiétude chez les consommateurs, notamment ceux qu'on a croisés, qui ont été interrogés en tout cas aujourd'hui dans la rue.
J'ai eu des moules de bonne qualité et j'ai aussi des moules que j'ai achetés en grande surface.
Regarde la plasticité après ou la qualité du plastique après.
Le silicone, pour moi, c'est pas naturel. Vaut mieux la bonne méthane à l'ancienne.
Alors, on rappelle que cette alerte, elle concerne uniquement les moules en silicone, uniquement certains modèles. Pas les autres ustensiles de cuisine qui contiennent du silicone. Enfin, on l'espère parce que lundi dans l'émission C'est à vous, voilà ce qu'on a entendu, voilà ce qu'on a utilisé.
Ensuite, on cuit avec de l'agar agar. Donc il faut que ça monte à plus de 90 degrés pour que ça gélifie. Et après, on les couche sur un tapis comme ça, silicone. Silicone.
Bon, normalement, on n'empoisonnait personne.
Monsieur le ministre, ça vous inquiète, ces alertes du UFC Que Choisir ?
Je suis toujours très au sérieux ce que dit l'UFC Que Choisir. Je ne sais pas si les tenants et les aboutissants de cette enquête, mais en tout cas, ça interroge. Si les produits sont dangereux pour la santé, il faudra bien sûr les interdire.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.